Radio Éducation, le leader de l'information éducative. 13h, le journal.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce vendredi 22 mai 2026 pour la grande messe de l'éducation sur les antennes de la web radio Éducation. Tout de suite, le sommaire. À quelques heures de l'entrée en fonction du président de la République nouvellement élu, des acteurs de l'école expriment leurs attentes et dressent le profil type des prochains ministres de l'Éducation. Vous les suivrez dans ce journal. Certificat d'études primaires, session unique de juin 2026, les candidats jaugés via un examen blanc national pour d'éventuels réglages. À suivre dans cette édition, le point de cet examen blanc national dans le littoral. Et puis, un atelier d'analyse des offres de formation se tient actuellement à l'université d'Abomey-Calavi. De quoi retourne-t-il ? Restez à l'écoute pour en savoir davantage. Quelques brèves, les pages santé et inter viendront meubler cette édition. En voilà, pour ce qui est de la charpente, nous sommes le vendredi 22 mai 2026. La météo annonce des orages. Prenez vos dispositions au départ de la maison. Bonjour, bienvenue, les détails, c'est tout de suite. À nouveau bonjour. À quelques semaines de l'examen national du certificat d'études primaires, session unique de juin 2026, les candidats ont été appelés à passer l'examen blanc national. Trois jours de composition ont permis de jauger au plan national les candidats sur leurs capacités intellectuelles et physiques. Comme de nombreuses écoles, l'école primaire publique Sikenor à Cotonou a servi de cadre pour l'examen blanc national du CEP dans le département du littoral. À l'issue de ces compositions, enseignants et candidats font le point au micro de Gloria Adivesoli.
Du lundi 18 au mercredi 20 mai 2026, les candidats à l'examen du CEP, le certificat d'études primaires, ont passé les examens blancs nationaux. Dans le département du littoral, à Cotonou, l'école primaire publique Sikenor fait office de centre de composition. Durant trois jours, les élèves ont été jaugés intellectuellement et physiquement. Maquet Adjanorun, le chef centre, renseigne sur le déroulé de ces trois jours de composition.
C'est vrai, comme vous le savez, avant le CEP normal, nous organisons toujours le CEP blanc. Et nous sommes venus avec les enfants, avec les surveillants. Et je peux déjà vous dire que tout s'est bien passé dans une ambiance bon enfant, comme on a l'habitude de le dire. Et nous avons enregistré au total 466 inscrits, dont 234 filles. Nous avons enregistré 5 absents, dont 4 garçons.
De façon pratique, que retenir ?
Nous avons fait des épreuves écrites, orales et post-sportives. Donc déjà le lundi, nous avons fait une partie des épreuves écrites, une partie des épreuves orales. Le mardi, on a continué. Et déjà le mardi soir, on a apprêté le terrain de sport pour qu'aujourd'hui, mercredi, on puisse commencer, pourquoi pas finir avec le sport. Épreuve orale, nous avons fait le chant, la poésie et puis le conte. Par rapport à l'épreuve sportive, nous avons fait le grimpé et puis le saut en hauteur.
L'examen blanc du CEP ne s'est pas déroulé sans embâge au sein de l'EPP Sikenor, de l'avis de Maquet Adjanorun, le chef centre.
Il y a des enfants qui, pendant le sport, veulent aller coûte que coûte, aller se désaltérer. Or, il n'est pas permis aux vendeuses, ils ne laissent pas d'entrer dans la maison tant que les épreuves se passent encore. On a essayé de cadrer tout ça là pour que ça se passe dans l'ordre.
Après trois jours de composition, les élèves donnent leur impression et font part des difficultés rencontrées. Précieux Enoch Noé Rundenou, Ketsia Nyonlonfon et Amira Fafana Batoko, respectivement.
Les trois jours d'examen ne sont pas difficiles. Aucune matière ne m'a embêté.
J'ai trouvé ces trois jours d'examen un peu faciles et compréhensifs.
La coutume m'a un peu embêté parce que je n'avais pas fini.
J'ai trouvé les trois jours faciles, mais c'est juste le sport qui m'a perturbée. Au niveau du grimpe, et du saut en hauteur.
Pour rappel, L'examen national du certificat d'études primaires, session de juin 2026, est prévu pour se tenir du 1er au 4 juin 2026.
Et il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance aux candidats qui prennent part le 1er juin prochain à l'examen national du certificat d'études primaires, session unique de juin 2026. Je le disais il y a un instant en titre, à moins de 48 heures où le président Patrice Talon s'apprête à tourner dos à la fonction présidentielle, à faire ses adieux au palais de la Marina et à transmettre la charge à son successeur Romuald Wadayi, des voix s'élèvent dans le rang des acteurs de l'école béninoise pour exprimer leurs attentes pour le secteur éducatif. Ils n'ont pas manqué à travers le Vox Populi que vous allez suivre dans un instant de se prononcer sur le profil des ministres à même de catalyser les ambitions de ce secteur. Je vous propose de les écouter.
D'abord, moi, je voudrais suggérer au président de la République, son Excellence, M. Wadayi, de restructurer les ministères, premièrement, et mettre ensemble l'enseignement primaire et secondaire pour une grande visibilité des secteurs. L'enseignement supérieur et la recherche scientifique peut rester tel quel. Nous avons expérimenté le MEMPS, enseignement secondaire, primaire, technique ensemble, on l'a expérimenté. On a expérimenté aussi l'éducation nationale. Et les grands pas que nous avions eu à faire dans le domaine de l'éducation au Bénin, les statistiques sont là. C'est quand on essaie de regrouper les ministères et on n'a plus de visibilité sur la cohérence horizontale. Ça, c'est la première remarque. Et quel type de ministre nous voulons? Et moi, je voudrais qu'on ne nous donne plus de ministres inspecteurs. Leur background est tel qu'ils ne sont pas préparés à gérer les différents compartiments. Ils sont préparés pour l'action pédagogique. Franchement, moi, je veux que le président nous donne un ministre qui n'est pas un technicien ordinaire. Et les ministres les plus efficaces que nous avons eus en République du Bénin sont Vincent Guézoudier, c'était un militaire. Pardonne Didjorou, c'était un médecin traumatologue. Et aujourd'hui, au secondaire, nous avons Madame Teufaudé qui n'a fait que moins de 2 ans. Mais ce qu'elle a fait est vraiment important. Et nous voudrions qu'on nous fournisse des ministres de ce genre. Qu'on prenne pour nous un scientifique de haut niveau, un médecin ou carrément un ingénieur ou pourquoi pas un didacticien. Lui, il sait où il va. Ce que nous attendons, c'est qu'on ne commence pas à faire la science dans nos écoles. On ne commence pas à faire la pratique dans nos écoles d'enseignement technique.
J'aurais souhaité vivement qu'il soit un cadre de l'enseignement supérieur débarrassé de toute teinte politique. La priorité doit être toute simple. Débarrasser les syllabes de formation de toute coquille requise d'éducation tout entière. Revoir les méthodes d'enseignement aujourd'hui dans notre pays. Il s'agira de réécrire les programmes de formation dans toutes les universités et de prioriser la formation technique et professionnelle. Il faut avancer progressivement pour atteindre et obtenir un seul ministère pour l'éducation nationale. Et ça a existé. Ça permettra de revoir l'entièreté du système et de le faire asseoir sur une base.
La priorité des priorités, c'est qu'il faut engager une refonte du système éducatif béninois. La priorité des priorités, c'est qu'il faut revoir le contenu des enseignements et des formations. Deuxième chose, lorsqu'il y a de vrais programmes d'enseignement, il faut qu'il y ait des gens capables de les enseigner. Et là également, ça veut dire que il faut avoir des enseignants de qualité. La troisième chose sur laquelle je mets l'accent, c'est de revoir également le système d'évaluation. Est-ce que la manière dont les enfants sont évalués, est-ce que cette manière-là est la meilleure?
Quelques brèves avant la suite de cette édition. L'Institut national de la femme a signé devant le tribunal de première instance de Cotonou. À l'origine de la procédure d'assignation, un citoyen béninois actuellement en détention dans une prison du pays qui a décidé d'assigner plusieurs personnes et institutions en justice. Selon les explications fournies par son avocate, Maître Olga Anasside, la plainte ne vise pas uniquement également l'Institut national de la femme, le ministère public, un citoyen ainsi que trois autres structures sont également concernées par cette action judiciaire. D'après la défense, les poursuites portent notamment sur les faits liés à l'utilisation d'un système informatique. Les accusations évoquées dans cette affaire concernent entre autres des faits assimilés à une dénonciation calomnieuse dans le cadre du fonctionnement judiciaire, de complicité ainsi que de harcèlement. L'avocate du plaignant estime que cette procédure permettra d'éclairer les zones d'ombre qui entourent le dossier de son client. Poursuivant ses explications, elle déclare être convaincue que les audiences devraient aider à comprendre les circonstances dans lesquelles son client a été déposé en prison et les éléments ayant conduit à son incarcération. Il s'est ouvert depuis ce mardi 19 mai 2026 à Porto Novo la session ordinaire du deuxième trimestre de l'année 2026 de la commission administrative paritaire du ministère des enseignements maternels et primaires. C'est Thomas Simbosa Chao, actuel secrétaire général du ministère des enseignements maternels et primaires, qui préside les travaux en présence de tous les commissaires. L'enjeu est clair, boucler les préparatifs du CEP 2026 et régler les questions de financement et de gestion des écoles avant la fin du trimestre. L'organisation du CEP session unique de juin 2026, la restructuration des tests de la direction des examens et concours, le suivi du courrier des partenaires sociaux du 22 avril 2026, la rotation des examinateurs du certificat d'études primaires, la dotation de la commission administrative paritaire en matériel de bureau, le positionnement des trois quarts des subventions aux écoles, les réformes de la domiciliation des comptes des écoles au trésor public, les questions diverses et l'adoption du rapport général de la session sont essentiellement les 9 points inscrits à l'ordre du jour de cette session de la commission administrative paritaire ce mardi 19 mai 2026 à Porto Novo. Le Bénin franchit une nouvelle étape dans la structuration de son système sportif en milieu éducatif. Réuni ce mercredi 20 mai 2026 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, les principaux acteurs du sport scolaire et universitaire ont procédé à la validation nationale du plan stratégique de développement du secteur pour la période 2026-2030, organisé par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. L'atelier a mobilisé cadres ministériels, responsables de fédérations sportives, partenaires techniques et acteurs du mouvement sportif autour d'un même objectif: doter le pays d'un cadre de référence capable d'orienter durablement les actions en faveur du sport dans les établissements scolaires et universitaires. Restons justement dans le cadre des ateliers pêle-mêle dans le secteur éducatif pour dire qu'un atelier d'analyse des offres de formation se tient actuellement à l'université d'Abomey-Calavi sous l'autorité du professeur Tairou Diarra, vice-recteur en charge des affaires académiques de cet atelier qui s'est ouvert le mercredi 20 mai 2026 dans la salle numérique du département de génie informatique et télécommunication de l'EPAC. Il est attendu l'élaboration d'un répertoire des offres de formation de master de l'université d'Abomey-Calavi. Des précisions avec l'initiateur en chef de cet atelier, le professeur Tairou Diarra, vice-recteur en charge des affaires académiques de l'université d'Abomey-Calavi.
Cette activité porte essentiellement sur le transfert des masters de nos écoles doctorales vers les unités de formation et de recherche. En transférant ces offres de formation, de master recherche vers nos unités de formation et de recherche, il se pose un problème et nous devons donc apporter une réponse appropriée à ce problème. Le problème qui se pose, c'est le problème de mise à jour de ces offres de formation. Parce que selon, disons, les orientations gouvernementales, il n'est plus question de parler de master recherche ni de master professionnel. On parlera tout simplement de master. Il était question de demander aux chefs d'entité de nous transmettre à travers un outil les offres de formation qui existent au niveau de leurs unités de formation et de recherche. En lien avec la stratégie innovante de gestion des affaires académiques basée sur le numérique, à la date d'aujourd'hui, nous avons pu recenser 151 offres de formation. Nous sommes donc réunis dans cette salle pour un mini atelier d'analyse des différentes offres de formation qui sont soumises à travers la plateforme.
Que faire par la suite des 151 offres de formation? Élément de réponse avec le professeur Tayrou Diarra, vice-recteur en charge des affaires académiques de l'Université d'Abomey-Calavi.
Les 151 offres de formation seront analysées, inspectées par une équipe que j'ai constituée, notamment le Centre de pédagogie universitaire d'assurance qualité et quelques cadres du vice-rectorat en charge des affaires académiques. À travers cette activité, nous allons produire, à la date d'aujourd'hui, un premier référentiel des offres de formation, c'est-à-dire les entités qui ont respecté le délai que nous avons défini. Nous allons pouvoir sortir un document officiel pour indiquer à la communauté universitaire, voilà les offres de formation qui se retrouvent dans le processus de mise à jour de leur contenu. Selon le calendrier que nous avons établi, c'est jusqu'au 15 juin. Nos apprenants ont le droit d'avoir un guide formel et puis quelqu'un qui souhaite entrer à l'université, à travers ce guide, il saura concrètement, lorsque je veux faire telle ou telle formation, voilà à la fin ce que je deviens concrètement. Pour que l'étudiant puisse s'inscrire, que ça soit licence, master, doctorat, si l'offre n'est pas implémentée au niveau du système d'inscription, est-ce qu'il pourra s'inscrire? Donc, c'est pourquoi même les chefs services de la scolarité centrale sont également invités, parce qu'ils doivent suivre le processus qui est en cours pour qu'ils ne soient pas en déphasage avec ce qui se passe.
Cet atelier d'analyse prend fin le lundi 15 juin 2026. Étirement des lèvres vaginales des filles en territoire Ti de la commune de Lalo au Bénin, les filles brisent enfin le silence. C'est le projet porté par de nombreuses filles à travers l'ONG Nouvelle Afrique. Le mercredi 13 mai 2026 dernier, en effet, de nombreuses filles du département du Koufo dans la commune de Lalo ont tenu une séance de plaidoyer en présence de Maître Huguette Bopé Nyakadja, la présidente de l'Institut National de la Femme. Partagée entre chocs psychologiques, douleurs physiques, irritations et infections de tout genre, les jeunes filles de cette localité ont décidé de briser le silence. Les détails avec Gloria Adivesoli.
C'est une vidéo qui a fait sensation depuis le mardi 19 mai 2026 dernier sur les réseaux sociaux numériques, TikTok aussi bien que Facebook, dans laquelle Maître Huguette Bopé Nyakadja, la présidente de l'INF, l'Institut National de la Femme, dénonce un fait que beaucoup qualifient de pratique ancestrale. Étirer les lèvres vaginales de la jeune fille dès l'âge de 11 ans, tous les 3 jours, jusqu'à ce qu'elles atteignent la taille d'un pouce. Une tradition ancienne qui replace au centre des discussions l'intégrité physique des jeunes filles. Entre traumatismes psychologiques, douleurs physiques, infections et irritations, de nombreuses jeunes filles en territoire Tchi de la commune de Lalo, soutenues par l'ONG Nouvelle Afrique, ont brisé le silence. Ceci au moyen d'une séance de plaidoyer tenue le mercredi 13 mai 2026 en présence de la présidente de l'INF.
C'est une pratique que subissent les adolescentes et les jeunes femmes à partir de l'âge de 11 ans et qui consiste en fait à tirer sur ces lèvres-là tous les 3 jours, tirer dessus. Dans quel objectif? Que ça atteigne la longueur du pouce. Ah, vraiment. J'ai écouté un groupe de jeunes filles qui représentent les filles de la communauté qui ont adressé à l'INF un plaidoyer. C'est-à-dire, il faut imaginer la douleur physique dans cet étirement permanent. Et puis, le traumatisme psychologique. Il faut imaginer les inflammations que ça provoque, les irritations permanentes quand elles marchent, les infections qui s'en suivent, la stigmatisation et tout le reste.
À suivre ici une séquence du plaidoyer des jeunes filles de la communauté Tchi de Lalo.
Nous, les filles de la communauté Tchi de Lalo, avons décidé de briser le silence sur une pratique qui nous affecte profondément, à savoir l'étirement des lèvres vaginales. Chères autorités, pendant trop longtemps, l'étirement des lèvres vaginales a été considéré comme normal dans la communauté Tchi. Et nous sommes nombreuses à avoir subi et continuons de subir dans l'ombre des violences physiques et psychologiques. Nous sommes conscientes des risques graves que cela entraîne pour notre santé, notamment des infections et des souffrances émotionnelles, la douleur répétée et la maturité sexuelle précoce qu'entraîne cette pratique néfaste sont la cause profonde de l'abandon de l'école ou de l'apprentissage des filles, souvent observée dans notre communauté. Nous comprenons aussi que cette pratique est souvent justifiée par des croyances culturelles. Mais nous souhaitons aujourd'hui faire entendre notre voix pour un changement. En tant que jeune fille concernée par ce phénomène, nous venons aujourd'hui solliciter votre engagement dans la lutte contre l'étirement des lèvres vaginales.
En réponse à ce plaidoyer, Maître Huguette Bokpe-Nyankadja, la présidente de l'Institut national de la femme, a rassuré les jeunes filles de la prise en compte de leurs doléances.
Je leur ai fait la promesse que nous allions travailler jusqu'à ce qu'il soit mis fin à cette pratique. Je n'étais pas seule. J'étais entourée du représentant de Madame le maire de Lalo et également du représentant du préfet du Koufou. Eux aussi, ils ont pris la parole et se sont engagés à soutenir la réponse que nous allons donner à ce plaidoyer pour que cette pratique cesse.
Pour information, l'INF reste en première ligne pour œuvrer à l'éradication de toutes les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé, à l'épanouissement et à la dignité des filles et des femmes.
Merci à vous, Gloria Adive Sodé. Ce journal se referme avec la vie des médias. Licenciement à la SRTB, ex-ORTB, parlons-en. Lors de la sortie traditionnelle du porte-parole du gouvernement face à la presse ce mercredi 20 mai 2026, Wilfried Léandre Rungbedji s'est exprimé sur plusieurs sujets de l'actualité nationale. Au nom de ceux-ci, le licenciement collectif annoncé au sein de la SRTB qui suscite de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique nationale. Interrogé sur cette actualité, Wilfried Léandre Rungbedji indexe la méthode et donne sa lecture sur les réformes en cours dans le secteur public des médias au Bénin. Voici un extrait de sa déclaration.
Il me semble que la SRTB soit une société anonyme qui a des organes de direction, une direction générale, un conseil d'administration. Et je suis convaincu que ce sont vos meilleurs interlocuteurs pour vous expliquer pourquoi ils en sont arrivés à prendre cette décision. Après, je peux penser humainement, et le gouvernement également, que à partir du moment où ils ont planifié une telle décision, ils auraient gagné à faire savoir au personnel un peu avant pour préparer les uns et les autres à cette éventualité. Parce que nous avons appris que les gens ont été pris au dépourvu. Ils ont eu l'information au tout dernier moment. Humainement, je pense que c'est déplorable. Ils auraient pu être avec avant, se préparer, y compris ceux qui ne sont pas concernés, pour que chacun sache que ça peut arriver à tout moment. Et puis, cela étant, ça fait partie quand même si ça n'est pas souhaitable, ça fait partie de la vie de toute entreprise. Ça peut arriver à un moment ou à un autre, pour diverses raisons. Et si les conditions sont remplies, les dirigeants ont à prendre courageusement la décision, mais ensuite à respecter les droits sociaux des personnes qui sont concernées.
À l'instant, Wilfried Léandre Rungbedji, secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement sur les récents cas de licenciement collectif à la SRTB, ex-ORTB. Eh bien, c'est sur cette opinion et sur ce commentaire de Wilfried Léandre Rungbedji que nous refermons définitivement cette édition mise en onde par Gildas Béanzé en Wagbe, à la réalisation Gloria Adivé Sodé, à la la coordination éditoriale, Ulrich Vital a retendu à la présentation. Je suis Romuald Lobo. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation par ma voix vous souhaite une très bonne fête de Pentecôte en compagnie de nos programmes. L'information reste en continu sur nos canaux numériques et digitaux. Il vous suffira simplement de faire un tour sur notre site internet www.eduaction.org ou www.eduaction.bj. À très vite.